Bien le bonsoir tout le monde, bon vendredi et on peut le dire, un excellent week-end, week-end de Grand Prix, un week-end qui lance l'été. Puis avouez que le timing est bon là au moment où la saison de hockey, les séries viennent de prendre fin. Et pas fâché non plus, c'est le fun de passer à autre chose, mais quel match hier! Vraiment là, quel beau hockey qu'on a vu d'un bout à l'autre. Victoire bien méritée des Caps de Washington qui se sont avérés la meilleure équipe. On s'entend en troisième période qu'il y a des gars pour qui, là, au sein de la défensive de Vegas, ça devenait tout à coup difficile. Quelques erreurs qui ont conduit au but de gars que vous connaissez bien, Smith Pelley et Lars Eller. Alors on va en parler tout à l'heure. On va rejoindre un gars qui travaille pour les Caps de Washington, un gars de la région de Québec depuis 21 ans. Ça a fait effort nuit passée du côté de Vegas et dans quelques instants, Danny Dubé. Mais d'abord, c'est le week-end du Grand Prix et c'est un grand plaisir d'accueillir celui qui a passé, évidemment, encore une fois la journée au circuit Gilles Villeneuve. Jacques Villeneuve qui est avec nous. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir.
Alors, Verstappen qui est celui, si on parle de ce qui s'est passé en piste concrètement aujourd'hui, qui a roulé le plus vite, donc quelques bons coups de volant après les menaces de coups de tête à son point de presse hier, Jacques.
Oui, mais il n'a pas dit qu'il allait garder son casque pour connaître... Les coups de tête, c'est plus intéressant.
Eh boy, il m'a dit qu'avec un casque à la tête, faudrait s'équiper. Mais quand tu pensais de ces déclarations, as-tu été surpris? Est-ce que c'est son...
Mais non, parce que c'est un enfant. Ça a aucun respect. C'est mal poli, mal élevé, typique d'un petit enfant. On a tout donné. Écoute, on l'a mis en Formule 1 à 17 ans. Et depuis qu'il est en Formule 1, Red Bull, le principal Matechis, lui fait ses éloges, même lorsqu'il commet une erreur, c'est la faute de l'autre. Lorsqu'il a sorti à Bakou son coéquipier en faisant des zigzags en ligne droite, c'était quasiment la faute de Ricciardo. Donc, quand c'est comme ça, ça lui donne une certaine aisance. Mais bon, c'est dommage parce que c'est irrespectueux. Un journaliste va poser les questions avec ce qu'il connaît, ce qu'il voit. Il y avait une raison de poser cette question-là parce que depuis le début de la saison, il se met dans le clos quasiment à toutes les courses. Et en plus, les pilotes le savent, les journalistes en Formule 1, c'est international. Il y en a des centaines. Et on arrive sur un Grand Prix au Canada. Beaucoup de journalistes ne sont qu'au Canada. Et c'est pareil sur chaque Grand Prix. Donc, il y a des journalistes locaux. Il faut prendre le temps de répondre.
Et que penses-tu? Ben, son directeur technique a raison donc de le rappeler à l'ordre ici et là. Il y a besoin d'être contrôlé, un peu comme tu dis, le jeune homme, là.
Oui, mais toute sa période karting, quand ça fonctionnait, son père le tenait, mais le tenait assez agressivement aussi. Et il performait comme ça. Et là, maintenant qu'il est arrivé chez Red Bull, il y a toute cette présence et j'ai l'impression que ça fait un petit décalage.
Quand tu dis le tenant assez agressivement, je veux pas faire du jasage de coulisses sur des informations non fondées, mais il y a eu des rumeurs à l'effet que ça jouait dur dans les coulisses du karting, justement, parfois même entre pairs rivaux, là, quand Verstappen était pris dans une guéguerre en piste. As-tu déjà entendu parler de ça? Es-tu au courant de ça un peu?
Ah oui, écoute, on a déjà vu des pairs de hockey, ben pourquoi pas des pairs de pilotes?
Ça fait-tu des meilleures bagarres, des paires de pilotes?
Hein, Jacques? Non, je sais pas, parce que c'est pas toujours très gros, un pilote. Ouais. Un paire de pilotes.
Ah, ben, à moins que tu te battes avec un autre paire de pilotes, c'est peut-être correct, mais dis-moi, en es-tu déjà venu? As-tu déjà laissé tomber les gants dans les paddocks, Jacques, dans ta carrière?
Non, jamais. Je me suis accroché une fois avec Montoya, parce qu'il a eu des propos déplacés, mais quand on était en dehors de la voiture, mais c'est jamais venu au point, non. Ouais. Il faut garder son cool, hein. Tout se passe dans la voiture. C'est ça qui est important.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on va l'entendre comment garder son cool un petit peu plus tard, alors qu'on va se rappeler ta course t'a permis de gagner le championnat du monde en 97 avec ta mère, Joanne et Philippe Lagu. On va avoir une belle heure de radio tout à l'heure où tu évoques justement la guerre des nerfs, en quelque sorte, le jeu psychologique. T'étais pas un bon candidat pour tomber dans le panneau. Mais je veux revenir au point de presse, puis à l'exercice de ces points de presse-là. Bon, il y a eu évidemment la menace, ou en tout cas la boutade de Verstappen, un peu impolie, comme tu l'as dit. Mais il y a aussi eu une question posée par un journaliste du Journal de Montréal au début du point de presse en français qui s'est fait rappeler que la langue de travail, la langue de diffusion de la Formule 1, c'est l'anglais. Bon, et ça n'a pas été apprécié.
Oui, je comprends. Au Québec, ça passe mal, mais c'est comme ça dans tous les pays. Et il faut qu'il y ait une langue commune parce que la Formule 1 est internationale, interplanétaire. Donc oui, je comprends juste dans ce point de presse-là. Après, les pilotes font des entrevues en dehors de cet endroit-là, c'est dans les langues qu'ils veulent. Oui. Ça, c'est la conférence de presse officielle Formule 1, et il y a une langue pour la faire. Et tous les pilotes s'y prêtent dans chaque pays. Alors, il n'y a aucune raison pour que le Québec fasse une exception.
Ça étirerait le processus, à moins que, exemple, dans les pays où la langue de base n'est pas l'anglais, qu'on ouvre une petite parenthèse dans le futur. On sait que Liberté Média est ouverte.
Non, parce que dans les commentaires, ça inclut souvent soit d'autres pilotes ou d'autres équipes qui, peut-être, eux, ne comprendraient pas ce qui vient de se dire.
OK, OK.
Donc, il faut faire attention aussi. Donc, c'est par respect pour tous les intervenants.
À ton époque, pas si lointaine quand même, Jacques, tu avais l'occasion, on avait toujours de tes commentaires. Quand tu gagnais une course, quand tu faisais un podium, on avait toujours de tes propos en français. C'était pas nécessairement dans le début de la conférence, mais à la fin, on te laissait un espace, je pense, pour communiquer avec les amateurs de ton pays d'origine ou même les francophones partout à travers la planète, n'est-ce pas?
Oui, il y avait un moment où c'était OK, maintenant, quelques mots dans votre langue.
Ah, exactement.
Sur, le, sur un podium. Mais ça, je pense, il y a plus ce côté d'entrevue. Maintenant, c'est directement sur le podium que des questions sont posées. Donc, une petite évolution à ce niveau-là.
On annonce des conditions tout à fait idéales pour tout le week-end. Est-ce que, à partir de ce moment-là, toutes les équipes, évidemment, consultent les prévisions météo. Est-ce que ça favorise qui que ce soit, des conditions presque parfaites? Pas trop chaud non plus, pas trop froid, pas de pluie à l'horizon, Jacques?
Ben, généralement, Red Bull, c'est la voiture qui tape le moins dans sa gomme, qui normalement use le moins ses pneus. Donc, quand il fait chaud, ça les, c'est mieux pour eux. Mercedes n'aime pas généralement ça. Mais il y a un peu une surprise, c'est que les gommes ne s'usent pas. Même les gommes à bande rose, là, les plus tendres, on les appelle les hyper tendres. Donc, c'est les plus tendres du groupe, qui à Monaco faisaient 10-15 tours. Ici, elles seraient capables quasiment de faire tout le Grand Prix. Donc, ça, c'est un peu une surprise pour toutes les écuries.
Peut-être quelques commentaires sur l'actualité du jour, puisque du côté des essais libres, quand même, c'est pas là que ça se joue aujourd'hui. Claire Williams, qui est en entrevue avec notre journaliste Maxime Sarrazin, évoque l'idée du fait que... On en a déjà parlé, mais ça revient sur la table. Il y en a plusieurs, c'est sûr que c'est pas les écuries de pointe qui le disent, mais qui souhaiteraient que les dépenses des écuries soient limitées de façon à ce que plus d'écuries puissent aspirer au podium, Jacques.
Non, n'importe quoi. S'ils sont pas contents, ils peuvent faire autre chose que de la Formule 1. Il y a d'autres catégories qui les accepteraient. Et à l'époque où Williams gagnait tout, c'était la première équipe à être contre. Donc, non, c'est pas tirer la Formule 1 vers le haut. La Formule 1, c'est l'extrême, c'est l'extase, c'est le summum. On peut pas mettre des limites comme ça parce que certaines équipes ont très, très mal fait leur job.
Et tu fais bien de rappeler que Williams n'avait pas le même discours il n'y a pas si longtemps quand ils alignaient les championnats du monde, les titres mondiaux. Maintenant, quand on regarde ça, il y a un autre sujet qui est abordé avec Claire Williams, c'est-à-dire l'avenir au sein de l'écurie Williams de Lance Stroll. Toi, Jacques, bon, on constate que la Williams et son nouveau moteur, là, ça, il n'y a pas eu une grande différence en piste. Maintenant, on verra demain. Mais où vois-tu l'avenir à court terme de Lance Stroll? Le vois-tu demeurer chez Williams la saison prochaine?
Il va avoir des difficultés à aller dans d'autres équipes, hein, parce que les résultats ne sont pas là. Donc, c'est bien beau d'amener des dollars, mais si les résultats ne sont pas là ou ça coûte cher à l'équipe, parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que Williams va perdre plus de 30 millions de dollars en droits télé l'année prochaine, avec les résultats le manque de résultats des deux pilotes. Donc, de prendre 2 fois 15 millions de pilotes pour en perdre plus avec les droits télé, est-ce que ça vaut la peine? Non, c'est très dommageable. Cette saison est compliquée parce que ça n'ouvre pas beaucoup de portes dans d'autres écoles.
Peux-tu m'expliquer, puis surtout pour les auditeurs, Jacques, donc c'est que les revenus télé sont redistribués en fonction des résultats?
Oui, c'est un peu comme des primes de course, sauf que c'est redistribué l'année suivante, où c'est un mélange de 2 ans, c'est assez compliqué, mais 50% de tous les revenus droit télé, droit de circuit, donc quand un circuit coûte cher, bien la moitié de ça va aux équipes tout de même. Ça fait partie de leur budget. Et reversé aux équipes selon le classement du championnat constructeur des équipes, pas du championnat du championnat pilote. Ah. Et Ferrari a un bonus parce que la Formule 1 sans Ferrari, il y en a pas.
Fort intéressant. Puis sais-tu quoi, je pense tout haut, là, tu me dis ça, puis je suis convaincu qu'il y a peut-être des amateurs qui écoutent, qui font la même réflexion. Ce serait intéressant de voir quelque chose de semblable en redistribution des dollars dans les autres sports, même dans les sports d'équipe, puis aller au plus méritant, finalement.
Oui, c'est plus méritant. Bon, il y a un bonus pour Ferrari, parce que côté image, c'est la somme. C'est ça qui énerve un peu certains. Mais moi, je trouve que ça serait mieux d'avoir des primes de course qui sont données sur le podium, directement, pour que ça arrive au même total, mais là, il y aurait une récompense qui serait visuelle, ça serait quand même plus intéressant.
Les contrats de pilotes, j'imagine qu'il y a des bonnies pour les podiums, gagner des courses, Jacques?
Ben, chacun a un contrat différent. Il y a des pilotes qui n'ont pas de bonnies, dont d'autres qui n'ont que des bonnies, et il y a d'autres pilotes qui payent pour rouler. Bon, après, ils ont un retour de salaire aussi, donc comme ça, ils peuvent dire que c'est pas des pilotes payants, mais à la base, c'est eux qui amènent quand même le budget.
On sait une chose, c'est que t'as pas payé pour rouler. Dis-moi, toi, t'étais-tu un gars qui aimait les contrats bonnies ou les contrats béton solide ou revenu garanti ou argent remis, non?
Ça dépend de l'écurie, ça dépend de si on s'en va dans une écurie pour gagner le championnat, là on peut accepter des bonnies quand même, parce que le but est quand même de gagner le championnat. Si c'est un peu difficile, c'est une écurie qui est en train de se construire, Là, celle-là, ça peut être un peu risqué. Mais c'est bien d'avoir un mélange parce que le bunny, il pousse un peu aussi.
Oui, absolument. Un élément de motivation. Indianapolis, avait-tu un bunny avant d'être en F1? Ça doit.
Ben, il y avait les bunnies à l'américaine, là, sur, liés aux courses sur les compétitions. Donc, le gros chèque qui est donné sur le podium.
Ah, super. Maintenant, permets-moi de faire, je sais que, il y en a qui poussent la curiosité. Il y a Michel Tremblay qui est au bord de la ville. Il veut savoir combien tu as eu comme bunny à Indianapolis. Peux-tu nous le dire?
Je m'en souviens pas parce qu'une partie s'était mélangée avec l'équipe, mais Indianapolis, c'était toujours une prime de 1 million de dollars à l'époque. Wow. Maintenant, elle est montée à 2 millions de dollars. Et après, il y avait d'autres petites primes. Par exemple, celui qui mène le tour au centième tour, il va par des différents sponsors et ainsi de suite. Donc, il y avait d'autres petits bonnies si on buvait le lait à la fin sur le podium. Donc, il y a un paquet de petits trucs comme ça à l'américaine qui étaient vraiment le fun. Mais c'est jamais... Là, on donne le chèque au pilote, mais généralement, c'est ça va à l'équipe et après, un pourcentage retourne au pilote.
Es-tu sérieux? Autrement dit, tu aurais pu gagner, mais ne pas boire le lait. Tu veux dire, mais il y avait un bonnie d'attaché à ça.
Oui, parce que avant, il n'y en avait pas de bonnie. Parce que dans les années 50 ou 40, je sais plus, un pilote a gagné, il avait tellement soif, il a bu un verre de lait, donc c'est devenu la norme. Et la dernière victoire d'Emerson Fittipaldi, parce que lui, il fabriquait du jus d'orange au Brésil, je pense que c'était au Brésil, il a refusé le lait pour boire du jus d'orange. Et ça a vraiment fâché tout le monde, donc ils ont rajouté le bonnet et le bouillon.
Oh ben boy, on apprend tous les jours, vraiment, toutes ces années-là plus tard, je ne la savais vraiment pas celle-là. C'était une belle soirée, le côté mondain du Grand Prix. Jacques, t'as assisté au bal hier avec ta mère, ta sœur et bref, le clan Villeneuve. Avez-vous passé une belle soirée?
Oui, c'était top. Je me suis goinfré d'huîtres en plus, donc attention à l'indigestion. C'était le fun. Par contre, il y a juste deux équipes et un pilote qui se sont pointés. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est là où on voit l'effet Bernie Ecclestone qui était capable de mettre la pression sur les équipes, sur les pilotes. Donc tout le monde y allait. Et maintenant que Bernie n'est plus là, c'est devenu un peu plus facile pour tout le monde.
Alors quand
donc,
tout
les
le
pilotes
monde...
des équipes n'ont pas fait l'effort.
Ah, c'est dommage. Alors quand on dit là que tout est beau, tout est rose sous Liberty Media, ils collaborent bien. Je veux dire, donc il y a peut-être moins d'autorité sur les pilotes d'une certaine façon, les écuries aussi.
Oui, mais je pense que c'est plus facile pour les promoteurs aussi. Donc ça va dans les deux sens. Hein. Tout n'est pas génial et tout n'est pas mauvais non plus. Après, ça dépend ce que l'on veut. Je crois que c'est plus simple pour les promoteurs et les grands prix vont coûter moins cher aux promoteurs aussi en bout de ligne parce qu'ils n'ont pas la même tenue que Bernie avait. Donc, les promoteurs vont être contents. Par contre, ça veut dire beaucoup moins de budget qui vont rentrer dans la Formule 1 et aussi dans les équipes.
Et en même temps, Jacques, si on se fie à ce que tu as déjà dit dans le passé par rapport à toutes nos conversations, pour les pilotes, là, ceux qui travaillent en fin de semaine, ils sont pas si démoralisés que ça de pas assister à un bal le jeudi soir, j'imagine? Ou...
Non, il n'y a rien de pire pour un pilote. Le jeudi soir, il faut être vendredi matin très tôt sur la piste. Franchement, c'était une corvée pour les pilotes. Ils y allaient par pure obligation. Puis c'est normal. Le dimanche soir, ça fait autre chose. La course est finie, c'est le fun, c'est le party. Mais le jeudi, juste en l'entame du Grand Prix, non, c'est la dernière chose que les pilotes veulent faire. Et d'ailleurs, il y a qu'à Montréal hein, où ça se passait.
Ah oui, bon, ben merci de nous le dire. Jacques, je te souhaite un excellent week-end. Mais on se retrouve de toute façon avec Joanne et Philippe Leguet un petit peu plus tard. Et on t'écoute tout le week-end, bien sûr, pour tes commentaires sur les qualifs et la course dimanche.
Ça marche. Bye-bye.
On se retrouve lundi. En ce qui nous concerne, au retour de la pause, Danny Dubé, il y a une Coupe Stanley qui s'est gagnée quelque part à Vegas hier.